Ben, on va le retrouver pour la première fois de l'année 2025. Notre bon ami David Etegui est là. David, comment vas-tu?
Salut, David!
Ça va bien, les boys? Comment ça va, Steph? George?
Ça va bien, David. Merci.
Ça va très bien, David. Puis à Montréal, ça va bien. Les gens vibrent. Puis nous, on a hâte de t'entendre, David, le Canadien, qui se retrouve à un point des séries après 40 matchs. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je pense que c'est honnêtement encourageant. Le mot que je vais utiliser, c'est encourageant. Je veux pas m'emporter, dire spectaculaire, extraordinaire. Et la raison, elle est simple, c'est que ils sont 21e dans les ligues après tout, hein. Donc, en date de ce matin, ils sont 21e. Ils sont quand même, il y a quand même 8 équipes, qu'il faut comprendre, qui ont 37 et 42 points. Donc, ils sont 8 équipes, incluant les Canadiens, qui se battent pour cette dernière place. Donc, c'est clair qu'à 5 points d'écart, il n'y a rien de joué, mais c'est exactement ce que les Canadiens voulaient. Ils voulaient être dans le mix. Et après 20 parties, 25 parties, on était quasiment sûr que ça n'arriverait pas cette année. Et ça, c'était ma grosse inquiétude. J'ai pas de problème que les Canadiens finissent cinquième dernier. J'ai pas de problème qu'ils fassent pas les séries. Mais je veux voir une progression des jeunes. Je veux les voir apprendre à gagner. Je veux les voir jouer des matchs importants. Et en étant dans ce mix, même s'ils sont que 21e dans la ligue, ça nous permet de leur donner cette expérience-là et surtout la confiance qu'ils peuvent avancer. Et je pense que ils sont sur une lancée, donc ça c'est un point positif. Parce que dans les 8 équipes avec qui ils se battent, il y en a plusieurs qui sont dans le sens inverse. Donc je pense que c'est très encourageant pour la deuxième moitié de la saison. Ça va être le fun pour tous les partisans.
David, c'est la semaine du bilan demi-saison chez le Canadien de Montréal. On va le faire un peu plus tard également, puis on va parler de la Ligue nationale de hockey. Un qui s'est démarqué et pas à peu près. Je veux dire, on s'attendait à quelque chose de le fun, on s'attendait à du jeu excitant, mais un petit mot quand même sur cette première demi-saison de M. Lane Hutson qui a 30 points après 40 matchs.
Lui, c'est spectaculaire.
Ouais.
Alors avant, si j'ai dit encourageant, lui, c'est spectaculaire. Et il se dirige vers une saison de 62 points, mais c'est pas juste ça. C'est une affaire de spectaculaire offensivement, et je suis un spécialiste de l'avantage numérique, où je peux pas faire grand-chose, où défensivement, j'ai des problèmes. Je comprends qu'il y a un négatif sur les plus et les moins, mais malgré tout, ils mettent dans des situations compliquées. Et sur la première vague d'avantage numérique, c'est le quarterback de l'équipe. Il joue presque 23 minutes par match. Il joue comme un vétéran. Mon inquiétude, c'était... Il va se faire frapper. Est-ce qu'il va être capable de se protéger? Il est en train de montrer qu'il est capable de se protéger. Est-ce qu'il peut gagner ses batailles un contre un dans les coins? Il sort la plupart du temps avec la rondelle. Donc, Stéphane, c'est un général offensif, ce gars-là. Puis, je vais faire une déclaration aujourd'hui. C'est pas mon genre de le faire, mais dans ce sens-là. Mais moi, je suis les Canadiens depuis 1979. C'est le meilleur défenseur offensif que j'ai vu dans les 45 dernières années à Montréal. Donc, je peux pas retourner en 1954, dans le temps que Doug Harvey et par la suite certains autres. Mais si je reviens en arrière, et on a eu des prospects intéressants depuis ces années-là, on a eu Chris Chelios, on a eu Piquet Souban, on a eu Shea Weber, on a eu Malakov, on en a eu des bons. Mais lui, j'ai jamais vu ça en 45 ans. Donc, je pense qu'il faut que ça continue. Mais je pense que c'est spectaculaire, c'est le fun, et les gens de Montréal méritent un gars comme ça. Et je suis tellement content pour eux, oui. Je suis tellement excité, parce que là, plus que l'échantillon est assez large pour dire que ce gars-là, ça va possiblement être le real deal, là. Ça va être un vrai de vrai, là.
Nice. David, Kirby Dach, est-ce que tu es confiant qu'il va être capable de maintenir son jeu puis être enfin le vrai deuxième centre qu'on s'attendait?
Je vais me donner une petite gêne encore. Je vais me garder une petite gêne. Georges, qui est 40 parties, il n'a que 14 points. Hein, il est moins 23.
Ouais.
Je comprends que dans les 5 dernières parties, les 6 dernières parties, c'est 5 points. Il est plus 1. Mais ce qui est encourageant, je vais vous dire, c'est quoi? On a parlé de Kirby Dach ici à notre émission, entre nous, là, dans ma chronique, au moins 3-4 fois depuis le début de la saison.
Exact.
Et à chaque fois, je vous répétais la même affaire. Il faut que quelqu'un des Canadiens de Montréal s'assoie avec ce gars-là, il rentre dans sa tête, parce que lui, son problème, il est dans la tête. Il y a un problème dans la tête. Là, les gens sont en train de dire, bon, là, il est en train de reprendre son rythme, comme Ken Hughes a dit, ça prend du temps de revenir d'une blessure. C'est une affaire, revenir d'une blessure. Mais on a vu qu'il était démoli psychologiquement, ça allait pas bien, son affaire. Un peu comme à Chicago, avant d'être échangé. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il est en train de regagner confiance. Il fait des jeux qu'il ne faisait pas avant. Il fait beaucoup mieux au niveau des sacs, des mises en jeu. Il fait une différence, là. Donc, je pense que s'il est capable de continuer en enligné, pas 50, là, 4-5 encore comme ça, le gars va repartir exactement comme il était avant sa blessure. Donc, les prochains matchs, dans son cas, à lui, c'est hyper crucial. Il faut que ça aille bien le prochain mois.
Ouais, on le souhaite tous, c'est sûr. Maintenant, 2-2 s'en vient pour le Canadien de Montréal demain et après-demain. Jakob Dobesch, est-ce que le Canadien, de 1, a trouvé son numéro 2, à ton avis? Et de 2, on en a parlé cette semaine, est-ce que tu le vois peut-être mettre de la pression sur Montembeault et éventuellement même peut-être le challenger pour le poste de numéro 1 à Montréal?
Premièrement, là, il est 100% de victoire, 982 de moyenne d'arrêt, 0.48 de moyenne, un blanchissage. Si je me fie à ça, les gars, c'est le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue nationale. OK? J'ai jamais vu, même dans les années 1920, dans les vieilles statistiques, un gars qui goal pour .48 et 990 de pourcentage d'arrêt. OK? Donc, il faut pas qu'on s'emporte, les amis. La réalité, c'est que deux parties. Mais franchement, le gars, il est en train de montrer qu'il est capable, il a le potentiel d'être dominant. Il a le tempérament pour jouer dans un marché comme Montréal, dans un rôle où il est calme, il est capable de challenger les joueurs, mais il reste calme, il reste posé. C'est un gars qui est grand, qui est gros, il joue très bien au niveau position, il est excellent, il a une bonne mitaine, il a un bon gant. C'est un bon gardien de but. Donc moi, ce que je pense dans son cas, je pense que les 10 à 15 prochaines parties, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison, donc admettons le cas où, naturellement, Monty se blesse pas et qu'il goal à peu près 30 parties sur les 40 dernières, ou 25, et on lui donne une quinzaine à peu près à Dobesch, mais là, on va être capable d'avoir une idée de ce qu'il peut représenter. Mais je vais vous dire une chose. Vous me parlez de Montembeault, il doit être hyper content d'avoir un bon backup, mais c'est sûr que lui, il voit un jeune comme ça, et lui, il voit le talent aussi. Et il voit qu'il est fort entre les deux oreilles. Il dit ça risque d'être une menace éventuellement, mais rien de mal. Tant mieux pour l'équipe. Donc, je pense que, pour le moment, il n'est pas du tout une menace. Montembeault s'en va aux quatre nations. Il y a une chance de peut-être être gardien numéro 1, numéro 2, on ne sait jamais. Il va être le numéro 1. Sauf qu'éventuellement, Dobesch va prendre de la place et ça va épicer la conversation pour le futur des Canadiens devant le filet parce qu'on ne parle que de Dobesch là. Mais on a oublié qu'on a possiblement le deuxième meilleur gardien au monde dans les jeunes qui est à l'extérieur qui s'appelle Fowler. Ben donc ouais. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier lui. Donc là, quand il sera juste dans l'équation, c'est tant mieux pour les Canadiens. Donc, ça augure bien, et je pense qu'on devrait savoir, lui aussi, d'ici la fin de la saison, quelle est sa vraie valeur.
David, on va faire le bilan du Canadien puis de la LNH. Fait qu'on va commencer avec la surprise. Fait que, commencer avec la surprise, dis-nous ta surprise du côté du CH et ta surprise après ça dans la LNH.
Donc, ma surprise, j'ai pas le choix de dire ma surprise au niveau du CH, là. C'est vraiment Lane Hudson, je dois le répéter. Puis, j'aimerais parler de Evans, je pourrais parler d'Einemann, je pourrais parler de plusieurs belles histoires, mais Hudson, George, il joue comme un Calder. Et c'est pas une mauvaise saison, là. T'as Celebrini qui est là, t'as Mishkov, des gars qui ont 10 longueurs d'avance sur lui en début de saison pour gagner ce trophée-là. Et là, il se retrouve en avant d'eux, à mon avis. Il est plus fort qu'eux, il joue mieux qu'eux dans une position plus difficile à l'heure actuelle. Et de le voir là, Lane Hudson, c'est ma révélation cette année, quasiment dans la Ligue nationale, presque. Et je pense que lui, au niveau des Canadiens, il n'a pas le choix d'être lui. Maintenant, pour la Ligue nationale, je veux voir un peu des deux côtés. Au niveau joueur, pour moi, malgré qu'il y a eu une baisse de régime, c'est Martin Nekash qui est avec la Caroline. Et pourquoi je dis ça? Il est encore, comme malgré tout, en 47 points en 41 parties. Je ne sais pas si les gens réalisent ça malgré tout, là. Il est seulement à 6 points de sa production de toute l'année dernière, là. En 41 parties. Wow. Il est à 6 points de l'année entière. Et ce gars-là, il s'en va vers une saison de 95 points. Et ce que vous devez comprendre, c'est que sa meilleure saison, ça a été 71 points. Il a fait ça seulement une fois. Ses autres saisons, c'était dans les 50. Donc, il n'y a pas le choix d'être ma révélation malgré qu'il y a une baisse de régime dans les dernières 20 parties. Mais quand même, Martin Nekash, c'est wow. Maintenant, au niveau de l'équipe, je dois nommer une équipe, c'est le Wild du Minnesota. Je pense qu'on leur donne pas le crédit. L'année dernière, c'est une équipe qui a terminé 20e au classement. Cette année, Kaprizov, c'est Kaprizov. Rossi, il prend sa place comme un joueur vedette graduellement. Mais Philippe Gustafsson, ça a été la révélation, là. Et ce gars-là, il est en train de porter ses équipes sur son dos. Il y a un taux d'arrêt incroyable, un pourcentage incroyable. Il y a trois blanchissages déjà. Ça va bien, son affaire. Donc, je pense que, au niveau des équipes, pour moi, la révélation cette année, le Wild, qui est quatrième dans toute la Ligue nationale, Martin Nekash au niveau des joueurs, et pour les Canadiens, c'est Lane Hudson.
Ouais, c'est un beau jeu. Faites-le à la maison. Vous allez voir, vous allez sûrement vous pogner avec vos amis à gauche et à droite. C'est un bel exercice. David, l'envers de la médaille maintenant, quand on regarde, ta plus grande déception chez le Canadien de Montréal et peut-être quand on regarde la Ligue nationale de hockey également.
Ben, je vais être un peu cinglant, puis j'aime pas le faire, mais c'est Alex Newhook, là. Alex Newhook, là, je sais pas si les gens réalisent ça.
Ben, oui.
Écoutez, là, j'ai joué 40 parties, il y a 9 points. 40 parties. Je ne sais pas si vous réalisez ça, là, mais je pense que Pezzetta aurait fait mieux que lui avec le même temps de glace.
Non, mais faites la règle de 3.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis avec Pezzetta. Pezzetta aurait mieux fait.
La règle de 3, si à la fin de l'année, New York finit avec 18 points, on va dire quoi au bilan?
Non, mais il a raison. Pezzetta aurait fait mieux.
Moins 26. Il s'enligne pour une saison de moins 26 et le gars, il joue 15 minutes par match. Maintenant, vous devez comprendre que c'est une affaire de dire il y a une production de 18 points. Mais le coach le fait jouer 9 minutes. Le gars, il joue 15 minutes par match. Écoutez bien ça. C'est plus que ce qu'il a jamais joué au Colorado. Dans toutes ses saisons au Colorado, il a jamais joué plus que 13 minutes et demie par match. Il est à Montréal, il joue 15 minutes par match et il s'en va pour une saison. Il y a 9 points en mi-saison. Ce gars-là, on lui donne toutes les opportunités. Ce gars-là, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Pour moi, là, il a beau être l'ancien client de Kent Hughes. Kent Hughes, là, Il doit dire, ce gars-là, ça va vraiment pas, mon affaire, là. Alors, lui, c'est vraiment une grosse déception, malgré qu'il a eu l'opportunité. Et même au Colorado, il a eu l'opportunité. Et il l'a pas saisi, c'est pour ça qu'il a été échangé. Et je vous l'avais dit ici lorsque c'était arrivé. Maintenant, je suis pas en train de dire que j'avais deviné qu'il serait aussi mauvais cette saison, depuis qu'il est avec les Canadiens. Mais c'est sûr et certain qu'il n'a pas du tout changé, il a même régressé.
Non, mais tu nous avais dit, quand Canadiens était acheté le Colorado, que.
Ouais, t'avais pas aimé
que
ça.
Tu nous avais dit que les Colorado, les gens étaient contents de s'en débarrasser, puis t'avais dit que.
Les fans, Georges, pour moi, l'élément, là, c'est le peuple. OK? Les gens connaissent ça. Et au Colorado, les gens connaissent le hockey, malgré qu'ils sont aux États-Unis, ils ne croyaient pas qu'ils ne savent pas ça, là. Mais au Colorado, là, la majorité des partisans, ils frappaient des mains quand ils ont échangé Newhook. OK, donc les fans. Donc ça veut tout dire, ça. Alors là, je lui souhaite pas de malheur, mais c'est certainement pas une réussite. Et il n'y a pas d'autre. Il ne peut pas rien faire d'autre. C'est pas comme Josh Anderson, que malgré qu'il y a une saison horrible, il est capable de frapper, il est capable de faire de l'échec avant. Lui, ce gars-là, il est petit. S'il ne fait pas des points, il ne produit pas, il ne vaut rien. Donc ça va vraiment pas bien pour lui. Et je lui souhaite franchement de redresser ça. Pour ce qui est de la Ligue, j'ai pas le choix de dire Steven Stamkos. Je peux en nommer plein. Mais Steven Stamkos, après le contrat qu'il a signé, sorti de là-bas, il est à 25 points. Il est à moins 12. Le gars, il s'enligne pour une saison de 50 points, alors qu'il sort d'une saison de 81 points, 40 buts. Donc, il passe d'un statut de super vedette à joueur plus que moyen. Et c'est une drop de 40% de sa production. Donc, quand on attache ça à la pire équipe, ou disons à l'équipe qui me déçoit le plus, pas le choix d'être les Prédateurs. Ils sont anciens de la Ligue avec 33 points, et lui fait partie de ce problème-là, parce que on n'a pas le choix de lui donner un minimum de 18 à 19 minutes de temps de glace, du power play, et lui, il ne produit pas.
Là, David, tu parlais de Lanson tantôt, puis comment tu étais émerveillé, puis comment tu étais surpris du côté du CH. Vu que tu es un ancien agent, on va te le demander.
Ouais, let's go, là, David. On veut des chiffres.
Comment tu penses qu'il va coûter et combien d'années on va lui donner?
OK. Ça aussi, on en avait parlé il y a un mois et demi à peu près.
Ouais.
OK? Je vais revenir là-dessus et là, on va y aller un peu plus profond, les amis. Tout ce que je vous ai dit il y a un mois et demi, c'est exactement dans la situation où on est. Ça s'enligne encore plus vers ça. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, vous avez dit ça va prendre 10 minutes à signer son contrat. Pourquoi? Tu vas prendre le comparatif, c'est qui? Quinn Hughes. Quinn Hughes, au même âge, il a signé au même âge, il a signé 6 ans, 7,85 millions, il avait fait 68 parties, 53 points, 1,28 par match à sa saison recrue. Hudson, il s'en va à 62 points, 1.33. Donc, ils s'en vont exactement. Il y a la même points par match, moins de points par match. Il y a le même genre de jeu. Il y a la même production, la même importance, le même wow factor et le même âge. Donc, ce qui va arriver, c'est que les Canadiens, ça s'enligne exactement comme ça. Les Canadiens vont possiblement dire « Hey, on va t'offrir un contrat similaire. 7.875. » Advenant le cas qui est,
Suzuki.
Par hasard, le salaire de Suzuki.
Exact.
On va lui dire, on va t'offrir le salaire de Suzuki et on veut t'avoir 8 ans. L'objectif, c'est que son agent ne voudra pas 8 ans à ce salaire-là. Parce que s'il remporte un Norris, comme Quinn Hughes a fait, il vaut plus 7.85, il en vaut 12 ou 11. Donc, automatiquement, eux vont tirer vers le 6. Maintenant, qu'est-ce qui m'encourage dans tout ce scénario? C'est que l'agent de Lane Hudson, c'est Sean Coffey. Sean Coffey, c'est un nouveau dans le métier. C'est pas un gars qui... Il n'y a pas 30 ans d'expérience dans le métier. Mais il travaille pour Quartex. Ouais. Quartex, c'est l'agence de Ken Hughes, ou l'ancienne agence de Ken Hughes, où il y a Philippe Lecavalier, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que ça va vraiment être facile d'arriver à une entente. Ken Hughes va appeler ses anciens partenaires. C'est pareil comme si j'appellerais Jerry Johansson, Rich Winter, tous mes anciens associés, puis je leur dirais, écoute, bien, on finalise ça. Voici ce que Quinn Hughes a fait. Voici ce que je veux. Je le veux 8 ans. Si on veut 8 ans, ben David, c'est pas 7.85, c'est 8.5, c'est 9. Et non, mais là, je veux pas qu'il dépasse mon capitaine. Puis là, on y va, on revient, mais ça se règle en 3 secondes. Pourquoi? Parce que tout est limpide. Il n'y aura pas de carte cachée. Les gens connaissent exactement la réalité. On sait exactement ce que la famille veut, ce que le joueur veut, ce que l'équipe recherche, ce qu'on essaie de créer. Et lui, il est content à Montréal, il signe. Un peu comme le Juraj Slafkovský l'a fait avec Montréal, où il aurait pu attendre et peut-être avoir mieux s'il ferait mieux. Donc, je pense que dans son cas à lui, à mon humble avis, ça va être exactement le même salaire que Suzuki, qui est un peu plus haut que Quinn Hughes, 7.875, mais ça va se terminer aussi sur du 6 ans et non du 8 ans, parce qu'ils ne voudront pas le signer aussi longtemps que du 8 ans. Et par ricochet, il va pouvoir devenir à ce moment-là UFA à l'âge de 27-28 ans et vraiment aller frapper un autre très, très gros contrat à ce moment-là.
Oui, je suis d'accord. Hier, on parlait. Moi, je disais, je le vois entre Slav et Nick. Ça va être ça. Ça va être Slav, Caulfield ou Nick. Mais c'est le nombre d'années qui est intéressant, David. Est-ce qu'on va vouloir, tirer pour aller à 8? Est-ce qu'on sera capable? À suivre. Un autre contrat qui fait grandement réagir cette semaine, David, dans les nouvelles, c'est Frank Vetrano qui a signé son fameux contrat en différé. Un petit point là-dessus pour toi, là, une réaction sur ce fameux contrat en différé qu'on voit peut-être plus au baseball dernièrement, qu'on amène dans la Ligue nationale de hockey. Ça a été accordé par la Ligue nationale de hockey et là, on entend que ça va être en négociation pour peut-être l'enlever de la prochaine convention collective.
C'est possible, Stéphane, mais pour les auditeurs à la maison, parce que je ne sais pas si vous avez fait un peu l'exercice d'expliquer aux gens c'est quoi cette affaire-là. Mais la réalité, là, c'est que d'abord et avant tout, c'est pas comme tous les nouveaux contrats qu'on voit. Il y a plusieurs contrats, comme le contrat de Carey Price que notre firme a signé et plusieurs autres. On upfront le salaire en bonification. Donc, on va aller chercher des 10 millions la première, la deuxième, la troisième, et on va diminuer par la suite. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui a été créé? C'est un peu comme tu parlais du baseball, de Otani. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repoussé à 2035 10 ans de paiement à 900 000 par année pour Vetrano. Et là, ils lui donnent 3 millions. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça pour les gens à la maison? Il y a une raison, elle est simple. Le problème, c'est la Californie.
Ouais.
La Californie, ils ont une taxe de 14,4% supplémentaire, bien supplémentaire, lorsque vous gagnez 1 million et plus. Donc, dans le cas d'Otani au baseball, pour vous comprenez, ça représente 90 millions de dollars d'économie sur 680 millions qu'on repousse plus tard. Dans le cas de Vetrano, c'est 9 millions. Donc, lui, il sauve à peu près entre 1,3 de manière irréelle, mais de manière réelle, 2 millions. Pourquoi? Parce que dans les premières années, il gagne moins. Maintenant, ça, c'est l'avantage pour le joueur. Donc, le joueur se retrouve à payer moins d'impôts et est capable de faire ça plus tard. Sauf que il va devoir possiblement déménager à la fin de sa carrière.
Exact.
Et ne pourra pas vivre en Californie. Ce que nous, chez Sports Corporation, on a initié avec notre agent Rich Winter, notre premier agent qui avait parti notre firme, qu'on avait été les premiers à faire ça avec les joueurs européens, en République tchèque, ce qu'on faisait, c'est qu'on reportait les salaires. Lorsqu'ils prenaient leur retraite, là, ils prenaient une partie du salaire et dans leur pays, ils ne payaient pas d'impôts, ou presque pas. On avait été les premiers à partir ça il y a 20 ans de ça, 15 ans de ça. OK? Roman Amerlik avait pris ça, c'était un autre client. Tous nos joueurs faisaient ça. C'est exactement la même chose, mais pour les États-Unis. Maintenant, où est le désavantage? Parce qu'il y a un désavantage aussi que les gens à la maison doivent comprendre. C'est que s'il est capable de laisser 9 millions de côté dans 10 ans ou dans 10 à 20 ans, lui, il perd aussi. Et peut-être qu'il a mal calculé son affaire. Parce que donne-moi 9 millions aujourd'hui, je comprends que je paye 2 millions de plus en impôts, mais je le fais fructifier 20 ans plus tôt.
Ben oui.
Je peux le placer, je peux faire des placements avec, acheter des immeubles, faire du real estate, faire toutes sortes de choses que sur une période de 20 ans, sur un intérêt accumulé qu'on connaît bien, il va être capable de tripler son montant ou doubler son montant, ou peu importe. Donc lui, je pense pas que... Je sais pas pourquoi il a fait ça avec un 9 millions de revenus, mais il y a peut-être une raison que je ne sais pas. Mais la logique dit que c'est pas tout à fait logique et c'est pour ça que c'est pas un grand problème pour la Ligue. Maintenant, la Ligue, elle se penche là-dessus. Pourquoi? Pour terminer, c'est que le problème de la Ligue, c'est pas que ce gars-là va payer moins d'impôts à l'État de la Californie. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que la Californie travaille pour changer ça de manière rétroactive et venir rechercher l'argent d'Otani et du joueur Vatrano. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, peut-être que ça ne marchera même pas. Mais la réalité dans tout ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation où l'équipe, les Ducks, se retrouvent à avoir sur le cap salarial 4,40 millions au lieu de 6 millions. Et il est là le problème pour la Ligue nationale. Tout le reste, c'est de la bouillie pour les chats. Ce qui est intéressant pour la Ligue nationale, c'est hey, l'équipe sauve 1,5 sur son cap, qui fait en sorte qu'elle a plus de flexibilité, est rendu dans 10 ans, le 900 000 par année, avec l'augmentation de 2 à 4% par année, ça va être du rien du tout sur le cap entre 2035 et peu importe l'année. Donc, il est là le problème pour la Ligue nationale, sur quoi ils vont devoir se pencher, mais je pense pas que pour le moment, ils perdent leur sommeil par rapport à ça au niveau de la Ligue nationale, ils ont d'autres chats à fouetter, et je pense qu'ils vont l'adresser au moment venu.
Merci, David.
Merci beaucoup pour les explications, David. Les
C'était
gens
très
sont,
bon.
Sont très contents de pouvoir avoir au moins ton avis là-dessus, tu sais, en tant qu'agent comme ça, de pouvoir en parler du montant en différé comme ça, en différé. David, merci beaucoup. Bonne semaine.
Merci, les amis.
À
bonne semaine.
Bonne
semaine, les
bonne
amis.
Chance à tes Rams.
Merci, David.
Yes, sir. All the way.
C'est
OK,
David.
Bye, les amis.